Vous pouvez tourner avec nous, s'il vous plaît. On va aller dans la parole de Dieu. Camille va nous conduire dans deux passages ce matin et je vais simplement introduire les deux passages. C'est rare qu'on lit deux passages le matin et donc ça vaut la peine simplement de mentionner un peu, de placer dans le contexte. Donc, on va lire deux passages ce matin. On va les lire ensemble dans l'Ancien Testament. Camille va nous lire un passage un peu plus long tiré d'un des grands prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe. Et donc, on remonte pas mal loin dans le temps, bien avant Jésus, d'accord? Je me rends à Jésus 2000 ans en arrière, encore quelques siècles plus tôt, le prophète Ésaïe. Les prophètes, c'était des gens qui, c'est ce que les chrétiens croient, c'est ce qu'on voit dans la parole, c'était des gens qui recevaient une révélation de Dieu. Dieu leur disait des choses, parfois claires, parfois obscures, annonçant souvent des choses à venir ou parfois pour parler au peuple de Dieu. Et les prophètes étaient envoyés pour ça. Le passage qui va être lu ce matin, c'est un passage qui pouvait difficilement être bien compris par les Juifs à l'époque qui ont entendu cette prophétie-là pour la première fois. On est dans Ésaïe 52-53, et ce passage-là parle d'un serviteur de Dieu qui va venir plus tard, on ne sait pas quand dans le passage, et qui est appelé à souffrir. Qui est appelé à souffrir pour le bien des gens, pour sauver des gens, qui est appelé à donner sa vie. Et donc, les Juifs à l'époque ne pouvaient pas entièrement saisir de quoi il en retournait, d'autant plus que ce n'était pas dans leur manière de voir un serviteur de Dieu, quelqu'un qui allait souffrir et mourir. Un serviteur de Dieu, c'était plutôt un roi. C'était plutôt quelqu'un qui dirigeait avec autorité, d'accord? Quelqu'un qui était responsable du peuple. Ça, c'était un serviteur de Dieu. Alors là, c'est un passage mystérieux. Deuxième passage que Camille va nous lire est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans un des évangiles, alors dans Marc, là, on retrouve Jésus à ce moment-là, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui vient et qui annonce, en fin de compte, qu'il est, lui, ce serviteur-là, qui devait souffrir, qui avait été annoncé par Ésaïe. Et il vient, à travers ce passage-là, bouleverser complètement. Je ne pense pas exagérer en disant ça, d'accord? Il vient bouleverser complètement la vision que l'humanité allait avoir du leadership. Il vient renverser ça complètement en amenant une vision complètement différente de ce que c'est être un serviteur de Dieu. Et il y a une leçon super précieuse pour ceux qui vont marcher à la suite de Jésus, ceux qu'on va appeler les disciples de Jésus-Christ. Alors, on va écouter la parole de Dieu.
Les deux passages, le premier va être dans Ésaïe 52 et 53. Je vous invite à tout de suite aussi réserver Marc 10 avec votre doigt pour le prochain texte. Donc, le premier, Ésaïe chapitre 52, verset 13, au chapitre 53, verset 12. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Tournez maintenant à Marc, chapitre 10, versets 41 à 45. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. »
Merci, Camille. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, c'est un grand privilège de pouvoir s'arrêter ensemble ce matin. Recevoir ta parole, Seigneur, méditer sur ta vie, méditer sur ta mort, méditer sur la vie chrétienne, Seigneur, ce que tu nous as enseigné en étant ce modèle parfait, Seigneur. Seigneur Jésus, ton passage sur la terre pendant ces quelques années est venu bouleverser, littéralement bouleverser, la vision que les hommes sont appelés à avoir du leadership, de l'idéal pour l'être humain, de la grandeur d'âme, par ton simple exemple, Seigneur. Seigneur, on veut te demander de venir nous parler ce matin, de venir nous façonner. Toi qui t'es fait serviteur pour nous, Seigneur, enseigne-nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Avec cette courte série qui est un peu différente, souvent on va dans des livres, bientôt on va commencer l'Évangile de Luc, j'ai très hâte. Mais avec cette courte série-là, on se promène dans différents passages. Et puis, la série, on l'a intitulée « Le risque de donner ». Et avec la série, on est en train d'explorer l'importance pour les chrétiens, l'importance pour un disciple de Jésus-Christ de constamment prendre le risque de donner. Constamment revenir à l'endroit où je suis prêt à prendre des risques. En donnant mon cœur, premièrement, c'est ça qu'on a vu le premier exposé, en donnant mon cœur premièrement à Dieu. C'est un acte de foi que je fais. Ça se passe entre lui et moi. Mais en donnant mon cœur à mon prochain, qui bien souvent peut le malmener, n'est-ce pas? Mais revenir à cet endroit-là où j'ai décidé de suivre Christ et je donne mon cœur, je fais ce pas-là, j'accepte d'aimer quelqu'un qui ne m'aimera peut-être pas en retour comme je le voudrais. Et la semaine dernière, on a regardé ensemble, avec un titre que je trouve pas mal de fun, un peu provocateur, « Au risque d'y perdre son REER ». Prendre le risque de partager mes biens, mes ressources, pour aider les gens autour de moi, pour honorer Dieu, pour grandir dans ma foi, mais prendre le risque de donner, qui est un acte de foi qui est là depuis le début du christianisme, qui est fondamental à toute communauté chrétienne, cet acte de foi où je réalise que tout ce que Dieu me donne comme bien matériel n'est pas là uniquement pour moi-même, pour répondre à mes besoins, est là pour que j'en aie en abondance pour partager et pourvoir aux besoins les uns des autres. Et à travers toute l'histoire de l'Église, ça a été une particularité. Chaque fois qu'on arrive dans une Église locale qui cherche à vivre ces valeurs-là, il y a une communauté qui s'entraide et qui prend soin les uns des autres. Cette semaine, on continue à être concret. Et cette semaine, on va parler de temps. On va parler d'énergie. On va parler de talent. L'importance de prendre le risque, de prendre une richesse qui est, je pense, plus précieuse que tous les biens matériels que je pourrais avoir. Si j'avais 40 milliards de dollars dans mon compte en banque et qu'il me restait 2 minutes à vivre, je serais prêt à les donner à n'importe qui pour avoir une journée de plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc, le temps est une richesse encore plus précieuse que tous les biens matériels qu'on peut posséder. Et il arrive qu'on ait pris la décision dans le passé de donner de notre temps, de notre énergie, de nos talents, de nos dons pour aider, pour servir, et qu'on ait décidé par la suite que l'expérience était trop amère et qu'on ait décidé de se retirer, qu'on ait décidé d'arrêter de donner, de se donner, de donner notre temps, au risque d'y perdre son temps. Ce matin, on va voir ensemble que lorsque je me fais serviteur des gens qui m'entourent, les gens autour de moi, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'envoyer les projecteurs sur mon Sauveur, sur Christ qui m'a engagé dans cette voie-là. Et qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand risque de perdre mon temps si je suis en train simplement d'attirer l'attention sur mon Seigneur, sur mon Sauveur. Le roi contre-culturel. Lorsqu'on lit les évangiles, puis on découvre toute cette époque-là, puis on se dit, c'est une autre époque, on ne peut pas vraiment s'associer, on ne peut pas vraiment s'identifier à cette époque-là. Les gens poursuivaient des idéaux qui n'étaient pas nos idéaux. Plus ça change, plus c'est pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans la culture gréco-romaine, d'accord? Lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit Marc, par exemple, le passage que Camille nous a lu tout à l'heure, on est dans une culture gréco-romaine. Dans l'idéal gréco-romain, l'idéal pour chaque être humain était d'être un citoyen, libre, propriétaire de lui-même et en possession de sa destinée. D'accord? C'était ça l'idéal. Généralement, à l'époque, un serviteur était généralement un esclave. Il n'était même pas propriétaire de lui-même, ce qui n'était pas vrai pour tous les serviteurs, mais la grande majorité d'entre eux étaient en fait des esclaves. D'accord? Alors dans cette culture-là, être un serviteur, être un esclave, ce n'était pas un idéal du tout, vous comprenez? À cette époque-là, je dirais beaucoup comme à notre époque, l'idéal pour chaque être humain était d'être maître de ton destin, propriétaire de ta vie, mais capable aussi de conduire le navire de ta vie là où tu veux, avec beaucoup de liberté. C'était l'idéal qui était élevé. Donc, il n'y avait pas grand monde qui aspirait à devenir serviteur. On imagine difficilement dans un foyer, papa grec qui est avec son petit bonhomme grec qui dit « Hey, mon petit bonhomme grec, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand tu vas être grand? » Ben moi, mon rêve, papa, ce serait d'être un serviteur qui lave les pieds des gens qui viennent visiter. C'était pas vraiment un idéal, vous comprenez? C'était pas présenté comme l'idéal. C'était la chose la pire qui pouvait t'arriver, c'était un constat d'échec complet dans ta vie. C'est une situation où si tu te retrouvais là et tu pouvais passer de citoyen libre à serviteur, hein? Si tu te retrouvais dans le trouble financièrement, puis tes dettes te conduisaient à te vendre toi-même pour devenir serviteur, tu pouvais perdre la propriété de cette liberté que tu avais. Alors voyez-vous, dans cette culture-là, être serviteur, ce n'était pas un idéal. C'était une réalité et en fait, on mesurait ton succès au nombre de serviteurs que tu possédais. C'est la culture de l'époque. Ce n'est pas si loin que ça de notre réalité à nous. Et puis Jésus arrive dans l'histoire de l'humanité. Jésus arrive et vient bouleverser complètement notre vision de cet idéal-là. Tant et si bien qu'aujourd'hui, vous allez aller vous acheter un bouquin sur le leadership en entreprise, puis vous allez lire les hommes qui ont le mieux réussi, puis c'est pas rare de trouver à quelque part, à un moment donné, dans la littérature, une idée que le plus grand leader doit être humble, puis servir le projet, la vision de toute l'entreprise. Puis le concept d'humilité de service est comme partie prenante maintenant d'une philosophie occidentale. Jésus est venu et a bouleversé notre vision littéralement du leadership. Ce n'est pas de leadership qu'on parle ce matin, mais c'est simplement pour dire jusqu'où le bouleversement s'est rendu. Alors, reculons un petit peu dans le temps. Dans l'Ancien Testament, c'est intéressant parce que lorsque je pensais à donner son temps, évidemment, une des premières images qui m'est venue, c'est cette idée du service. Ça nous conduit à la notion de serviteur pour le chrétien. Cette idée-là est super importante. Puis là, j'ai dit, OK, mais dans la Bible, le serviteur. Là, je me suis mis à réfléchir. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas venu encore, d'accord? On est dans l'Ancien Testament, le serviteur. Parce que la notion du serviteur de Dieu, c'est très présent dans l'Ancien Testament. Moïse est un serviteur de Dieu. Les grands prophètes étaient des serviteurs de Dieu. Le roi était un serviteur de Dieu. Mais la vision qui nous est donnée du serviteur, c'est, en gros, c'est qu'il est un serviteur de Dieu. À quelque part, quand tu étudies Moïse, tu te rends compte qu'il est là pour servir le peuple, parce que s'il n'était pas là pour servir le peuple, ils auraient quitté assez vite, assez souvent. Mais le langage, l'image qui est donnée, c'est que Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Il y a quelque chose là-dedans, tu sais. Vous allez même trouver dans certaines églises une espèce de culture du pasteur qui, lui, c'est le serviteur de Dieu. Va lire ta Bible, copain. Tous les chrétiens, c'est des serviteurs de Dieu. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris ici, là. Mais voyez-vous, tu sais, c'est finalement même glorieux. Tu sais, si je pouvais être le serviteur de l'homme le plus riche de la terre, puis c'est moi qui dois vous communiquer qu'est-ce qu'il y a à dire. C'est correct, je voudrais même prendre sa place, mais tu sais, je vais me satisfaire de cette humble position. Je suis le serviteur de Dieu qui a accès d'une manière particulière à Dieu, de manière unique à Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Puis vient des prophéties. Dans l'Ancien Testament, viennent des prophéties où il y a une image, il y a un concept qui commence à apparaître d'un serviteur de Dieu qui va être un serviteur souffrant. Ce n'est pas que c'était totalement absent. Comme j'ai dit, un serviteur comme Moïse souffre parce qu'il sert Dieu. Ce n'est pas totalement absent, mais là, il y a une dimension beaucoup plus grande. Celui qui est choisi par Dieu va mourir, va donner sa vie, va souffrir parce qu'il est serviteur de Dieu. Il va devenir un serviteur souffrant. C'est le passage, entre autres, dans Ésaïe, mais dans plusieurs passages, on voit cette idée-là dans les psaumes aussi, d'un serviteur qui va venir. Et oups, il y a une autre dimension qui est apportée ici. Ce n'est pas simplement le serviteur choisi par Dieu, qui a un accès unique à Dieu, qui vient parler au peuple, qui n'a pas cet accès-là à Dieu. Je ne dirais pas le petit peuple, mais là, on n'est plus au même endroit. On parle d'un serviteur qui va manifester qu'il est serviteur de Dieu en étant le plus méprisé des hommes. Et ça, c'est mystérieux parce que ce n'était pas une vision du serviteur vraiment présente dans l'Ancien Testament. En fait, lorsque le peuple juif s'en prenait à un prophète de Dieu, un serviteur, le peuple n'accueillait pas les prophètes et les maltraitait et voyait dans le fait qu'ils réussissaient à maltraiter cet homme-là le fait que Dieu ne le protégeait pas. Et donc, pour eux, c'était la preuve. C'est la preuve que, dans le fond, ce n'est peut-être pas un serviteur de Dieu. Alors, quand Jésus arrive dans cette culture gréco-romaine-là, avec cet arrière-plan, vous voyez, qui est aussi dans l'Ancien Testament, l'arrière-plan juif aussi, et que Jésus dit, OK, on va aller chercher dans l'Ancien Testament, on va aller chercher dans votre littérature, dans votre révélation de Dieu, des prophéties qui annonçaient le plus grand serviteur de Dieu qui allait venir, mais qui allait être abaissé comme le plus petit des hommes. Jésus vient renverser complètement la vision que l'humanité avait de ce que c'est un serviteur de Dieu. Et Jésus commence à enseigner, je dois être malmené. Je dois souffrir. Le serviteur de Dieu doit être méprisé. Et donc, Jésus va l'illustrer lui-même par des gestes concrets lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples. Mais il va l'illustrer aussi lorsqu'il va se rendre vers les gens qui sont perçus comme les plus petites gens de la société, vers le lépreux, vers ceux qui sont méprisés, vers les prostituées. Et il va les aimer, il va les accueillir d'une manière extraordinaire. Il s'en vient les servir lui-même. Il n'y a pas de personne trop basse, trop petite pour Jésus. Jésus va l'illustrer lorsqu'il est sur la croix. Il est pendu sur la croix. Il est en train d'agoniser sur la croix et il est encore en train de servir. Comment il le fait? Il prie pour ses ennemis. C'est le Fils de Dieu, d'accord? Il a un accès privilégié à Dieu sans l'ombre d'un doute. Et alors qu'il est sur la croix, qu'il est en train d'agoniser, alors qu'il est en train de vivre un drame qu'on comprendra jamais, qu'on saisira jamais vraiment, ce moment où il est maudit, il est fait pécher, il est encore en train de servir. Il est encore en train de servir, alors qu'il prie pour ses ennemis. Il intercède en leur faveur, puis il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il est en train d'intercéder en faveur de ses ennemis. Jésus est un roi, parce que c'est le roi des Juifs, est un roi contre-culturel. C'est un leader serviteur. Et lorsque les premiers disciples, lorsqu'ils l'ont vu à la croix, ils n'ont rien compris pantoute. Parce que dans leur vision à eux, ça ne se pouvait pas. Si tu es le serviteur de Dieu, on ne se rendra pas là. Il avait annoncé, mais ça ne cadrait pas du tout dans leur compréhension. C'est un serviteur de Dieu. Dieu va le protéger. Dieu va prendre soin de lui. Ça ne se peut pas. Tu vas régner. Dieu va envoyer ses anges. Il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, ils ne comprennent pas. Mais après sa résurrection, et encore plus lorsqu'il donne son Esprit Saint aux chrétiens, ils comprennent ça. Et lorsque les premiers chrétiens, les gars, les filles, on saisit ça, ceux qu'on appelait les disciples de Jésus, ils sont devenus une communauté de serviteurs. Ils sont devenus une communauté de serviteurs parce que, à travers leur vie, leur plus grand désir, c'était de refléter la personne de Christ. Et c'est le passage que Camille nous a lu tout à l'heure dans Marc 10, versets 43-45. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. L'apôtre Jean, bien des années plus tard, imprégné de cette vision-là, de cette compréhension-là du christianisme. Il a expérimenté pendant des années. Voici ce que l'apôtre Jean va écrire dans 1 Jean 3, versets 16 à 18. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Voyez-vous, Jean tire son instruction, son expérience de l'amour dans le sacrifice de Christ. « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire qu'il reste indifférent, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et donc, la communauté des chrétiens, au tout début, dans le livre des Actes, à Jérusalem, alors même qu'on vient de crucifier leur leader, et puis il proclame partout qu'il est ressuscité. Et là, la vie de la communauté des chrétiens commence à s'installer. Ils se démarquent par le fait qu'ils sont là et qu'ils prennent soin les uns des autres. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il pourvoit aux besoins les uns des autres. On a besoin d'aide ici, on va aller aider là. Et à travers l'histoire, le christianisme s'est démarqué, a été caractérisé à travers l'histoire par cette idée d'être serviteur, de prendre soin les uns des autres, et non seulement les uns des autres, mais même à l'extérieur. Concrètement, Jean dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Parce que devenir serviteurs les uns des autres, ça se traduit Oui, avec des biens que je peux donner pour aider les gens. Prêter mon char, prêter ma maison, donner, partager, inviter à manger. Mais ça se traduit aussi en action. Et ça se traduit avec, comme je le disais, probablement une des richesses les plus précieuses qu'on possède, le temps. Le temps que je prends avec mes talents, avec mes dons, et que je donne pour servir des gens autour de moi. Le temps que je prends pour aller aider quelqu'un qui est dans une situation difficile. Le temps que je prends pour m'investir dans la vie de quelqu'un puis l'aider à découvrir la Bible. Le temps que je prends pour aller prier simplement dans le secret, mais prier pour les frères et sœurs, prier pour la ville de Longueuil, prier pour ma famille. C'est du temps que je suis en train de consacrer à quelqu'un d'autre. Le temps que je prends pour m'engager à servir dans des ministères, dans l'église locale. Le temps que je prends pour aller servir mon prochain aussi à travers toutes sortes de moyens, d'organismes. C'est du temps que je prends concrètement pour devenir le serviteur de quelqu'un. Et ça, la motivation pour ça, on le puise dans l'Évangile de Jésus-Christ. Tu veux comprendre pourquoi un chrétien sert? C'est parce qu'il s'appelle chrétien. C'est un disciple de Christ. Ce n'est pas d'autres explications à donner. Si tu ne comprends pas, c'est juste que tu ne connais pas Jésus-Christ. Si tu connaissais Jésus-Christ, tu comprendrais pourquoi un chrétien sert avec son temps. Pourquoi un chrétien recommence à servir, même lorsqu'il a souffert en servant. Retourne à cet endroit-là, reprend le risque de se donner, de servir. Parce qu'à quelque part, le chrétien est toujours en train de servir Christ. Il est toujours en train de le faire pour Jésus-Christ. Lorsque je suis en train de servir quelqu'un à côté de moi, dans le fond de mon cœur, je le fais pour le Seigneur. Je le fais parce que je suis en train de suivre Jésus. Pendant que j'étais en train de me préparer pour cet exposé-là, je faisais des petites recherches dans mes notes, tout ça, puis je suis tombé sur un extrait de mon journal personnel, d'accord, que j'ai écrit le 16 novembre 2013. J'étais en train de méditer le matin, puis des fois, je résume une pensée que j'ai eue dans ma méditation, dans ma prière, puis voici ce que j'ai écrit. Je suis résolu à chercher à servir mon prochain avant moi-même, à élever et assister mon prochain afin qu'il devienne grand et beau en Dieu. Je chercherai l'élévation de tous autour de moi plutôt que ma propre élévation. J'assisterai les gens autour de moi afin qu'ils deviennent tout ce que Dieu veut former de glorieux en eux et je me réjouirai tous les jours de les voir se dépasser et s'embellir en Dieu. J'ai essayé de résumer cette pensée-là. Un des privilèges que moi j'ai, je l'ai mentionné tout à l'heure dans la bienvenue, un des privilèges que moi j'ai, c'est de m'investir dans des leaders. Ça vient avec ma responsabilité. Et depuis plusieurs années, parce que j'ai vu ceux qui m'ont précédé le faire avec moi, depuis plusieurs années, ma prière, mon idéal, c'est de voir les leaders en qui je m'investis me dépasser en talent, me dépasser en don. Ce matin, on a salué Alex qui est là. Mais là, ce gars-là, c'est lui qui va m'enseigner la Bible, ça ne sera pas long. Il est en train d'étudier la Bible comme je ne l'ai jamais étudié. Ça ne sera pas long, je vais pouvoir m'asseoir et je vais l'écouter m'enseigner la Bible. C'est glorieux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est mon privilège de servir. Et à quelque part, si moi, par exemple, je l'illustre de manière concrète dans ma vie, si je suis en train de former des leaders et qu'à un certain moment donné, ces gens-là perçoivent que je suis là pour me servir d'eux, je suis passé complètement à côté. Ah, je les appelle à servir. Tu vas te former comme leader, tu vas mourir. Tu vas mourir à toi-même. Mais s'ils perçoivent que je suis en train de me servir d'eux, j'ai passé complètement à côté de la plaque. Toujours. Ça doit être évident que je suis là pour les servir. Je suis là pour les aider à devenir ce que Dieu veut faire en eux. Parce que je suis un chrétien. C'est la seule raison. Pas parce que je suis un super pasteur qui a compris l'humilité. Non, j'ai juste compris l'Évangile de Jésus-Christ. C'est tout, ça s'arrête là. Je suis un chrétien. C'est l'attitude d'une vie générale où il y a plein de moments où je veux servir, me donner, servir encore une fois. Et il y a plein d'opportunités pour le faire. Donc, je vous pose une question tout de suite avant d'aller plus loin. Les gens autour de vous, si vous faisiez un petit sondage secret, tu sais, où il n'y avait pas besoin de dire leur nom, Il y a des beaux outils pour ça sur Internet, si ça vous tente cette semaine de faire un sondage. Puis vous leur demandiez, est-ce que tu me perçois comme un serviteur de mon prochain? Est-ce que je suis quelqu'un qui est un serviteur? Ça, ça se perçoit à travers toutes sortes de choses. C'est les gestes les plus anodins. C'est les petites opportunités. Tout à l'heure, il y a un de nos petits bonhommes qui a dit, « Allez mettre la table. » C'est ça un serviteur, hein, ça met la table. Dans le temps, il lavait les pieds. Bon, vous devriez vous épargner de celle-là, à part des fois dans les mariages, on fait ça comme une symbolique. Mais c'est tout des petits gestes, des moments, des attentions, une écoute qui est disponible. Faire des gestes qui ne seraient pas naturels à moi si je n'avais pas connu Jésus. Si vous faisiez un sondage ce matin auprès des gens autour de vous, est-ce qu'ils vous diraient que vous êtes un serviteur? Si la réponse est non, ils ne peuvent pas vraiment vous dire que vous êtes chrétien. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'un chrétien, c'est un serviteur. Alors, ce matin, cette semaine, j'ai fait un exercice pratique, puis je ne prendrai pas le temps de tous les lire ce matin, mais cette semaine, j'ai fait un exercice pratique, j'ai donné du travail à l'équipe ici au bureau, puis j'ai dit, je veux être concret. Faites-moi une liste de tous les besoins dans l'Église. D'accord? Vous pouvez servir partout, à la maison, au travail, les gens autour, à travers des organismes. Il y a toutes sortes de manières de le faire. Et beaucoup de ce que vous allez voir là, c'est du service. Des fois, c'est de l'enseignement aussi. Mais j'ai dit, OK, une liste, juste une liste de toutes les opportunités de service. Si on peut aller à la fin complètement, on a cette liste-là qui est là. Et puis, vous l'avez à l'intérieur du bulletin. Vous avez un bulletin qui vous a été remis. Il y a une liste de besoins où vous pourriez servir. D'accord? Ça serait une opportunité de le faire très concrètement, de dire, OK, je passe à l'action, j'ai des dons, j'ai des talents, je peux servir. Vous pouvez passer à travers toute cette liste-là cette semaine, mettre ça dans la prière. Premier devoir, faites un sondage. Peut-être que vous ne voulez pas le faire, vous connaissez la réponse, c'est le temps de vous repentir. C'est correct. Passez tout de suite à la repentance si vous connaissez déjà la réponse. Mais peut-être que vous allez avoir des belles surprises. Moi, j'aime prendre le risque d'être blessé en posant des questions comme celle-là. Et puis, peut-être que vous pouvez passer à l'action. En vous impliquant, en servant tout simplement. Et je veux terminer avec une dernière idée qui est importante parce que si on dit que servir avec son temps, avec ses talents, avec ses dons, littéralement en sacrifiant du temps qui ne reviendra pas auprès des frères et sœurs, par exemple, dans l'Église, c'est très clair aussi à travers les enseignements de Jésus que la mission, Jésus a donné une grande mission à ses disciples. Des fois, on l'appelle la grande commission. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observer, ça veut dire mettre en pratique, en action et avec vérité. Allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est clair dans l'enseignement de Jésus que pour le chrétien, de se comporter envers les gens de l'extérieur, envers la ville de Longueuil, envers des collègues de travail, dans des organismes de charité ou peu importe, où je vais servir avec mon temps, ce n'est pas étranger à cette mission-là. Ça fait partie à quelque part de la mission. Les gens deviennent chrétiens, parce qu'ils croient dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils croient en Jésus-Christ. Ils placent leur foi en Jésus-Christ. Ils réalisent que son plus grand service, ça a été de mourir sur la croix, comme on va fêter ça, ce ne sera pas long, dans quelques minutes avec le repas du Seigneur. Les gens deviennent chrétiens en croyant dans l'Évangile. Mais bien souvent, l'attention des gens est attirée sur ce glorieux Évangile, sur Jésus-Christ. Les projecteurs se tournent vers Christ, parce qu'il voit dans ma vie un serviteur. Et il y a ce passage dans Matthieu 5, 16, où Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes. Projecteur, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et dans le contexte précis, je n'ai pas le temps d'aller vraiment dans le passage, mais ça veut dire aimer et faire du bien à tes ennemis, ça va jusque-là. À ceux qui te persécutent parce que tu es chrétien, tu vas leur faire du bien encore. Tu vas leur donner du temps, de l'énergie, de ton cœur pour faire du bien à ceux qui te persécutent. Et Jésus dit, quand tu vas faire ça, certains d'entre eux vont voir les projecteurs se déplacer de toi, vers la personne de Christ, vers Dieu, ton Père, qui est dans les cieux. Et la gloire va être là. Ailleurs, il dit, c'est Pierre qui dit ça, « Afin qu'au jour où ils seront visités par Dieu, ils rendent gloire à Dieu, parce que certains, à travers mes bonnes œuvres, d'aimer, de poursuivre avec amour, avec concrètement, en action, avec sacrifice, des gens qui, en fait, ne m'aiment peut-être pas, certains d'entre eux vont voir, par une grâce divine, les projecteurs se déplacer de moi pour aller vers Dieu, et à travers ça, vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette communauté-là? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette église-là qui est différent de ce que j'ai vu dans le monde en général? » Et les projecteurs, à travers mon service, mon don de moi-même, se déplacent, non pas sur moi, mais vers la personne de Christ. Et là, je peux amener l'évangile de Jésus-Christ, annoncer la bonne parole de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a un risque à donner son temps. Il y a le risque d'être blessé. Il y a le risque de terminer une journée où je suis en train de servir et faire face à de l'ingratitude, puis dire, « Boy, j'ai perdu ma journée. » Il y a le risque de m'engager avec des gens, puis m'investir pour les voir grandir dans la foi, puis quelques années après, les voir renier complètement la foi. Partir, renier tout. Renier tout, même en te maudissant en face. La pire affaire qui m'est arrivée dans ma vie, c'est de rencontrer un chrétien, puis c'est de rencontrer toi, parce que j'ai perdu mon temps ici. Il y a un vrai risque à s'investir dans la vie des uns des autres. Le risque simplement d'être blessé, de ne pas faire face à de la reconnaissance. À la maison, au foyer, dans nos relations, il y a un risque à donner mon temps, mes talents, mon énergie. Et pourtant, si chaque fois que je le fais, je suis en train de le faire pour servir Jésus-Christ, il n'y a pas beaucoup de risque là, parce que je le fais simplement parce que je suis un chrétien. Et un chrétien, c'est un serviteur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es venu bouleverser complètement notre vision, notre compréhension de ce que c'est qu'être grand, de ce que c'est que d'être le plus grand. Tu l'as fait, Seigneur, à travers ta vie, mais tu l'as fait de manière sublime et parfaite à travers ta mort sur la croix. Alors même que tu étais pendu au bois, crucifié, tu priais pour tes ennemis, Seigneur. Et tu as donné ta vie sur cette croix, Seigneur, en rançon pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Tu es le roi serviteur. Et Seigneur, c'est notre plus grand privilège, notre plus grand honneur d'être serviteur en portant fièrement le nom de chrétien et de le montrer en action et avec vérité. C'est en ton précieux nom, Jésus, que nous prions. Amen.